OK, on va essayer de comprendre là, ce qui se passe avec les libérations conditionnelles avec Claude Laferrière. Il est avocat, il est chargé de cours à l'Université de Montréal. Il a travaillé au sein du Service correctionnel du Canada pendant 28 ans, agent de correction, agent de programme en désintox, agent de libération conditionnelle. Bonjour, M. Laferrière.
Oui, bonjour, M. Darville.
M. Laferrière, il est condamné à 15 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Ça, c'est en 2006. Moi, c'est bien de valeur, mais si je fais 2006 plus 15, là, j'arrive à 2021. Puis on est encore en 2020, à ce que je sache. Qu'est-ce qu'il faisait dehors si ce gars-là a été condamné à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 15 ans?
Parce qu'on y a accordé une semi-liberté, possiblement à partir d'une maison de transition. Ils ont pris le risque, ils ont assumé. Et l'évaluation du risque repose en grande partie sur la performance du détenu dans le cadre des programmes. Et s'il n'y a pas non plus de rapport de renseignement négatif. Dans les institutions fédérales, il existe ce qu'on appelle un agent de sécurité préventive qui, lui, récolte les rumeurs, les gossips, en fait, tout ce qui peut se raconter. Et à partir de ça, il monte un rapport de renseignement qui est communiqué au commissaire. Ça s'ajoute au rapport de programme, de la performance du détenu dans le cadre de différents programmes. Et là, d'après ce que j'ai compris dans les médias, le monsieur avait un problème de toxicomanie. Donc là, on ouvre une immense boîte de Pandore, évidemment, la question des drogues. Et là, le suivi qu'on doit faire en libération conditionnelle, surtout s'il y a une question de toxicomanie, possibilité de rechute, étant donné l'accessibilité aux drogues au Québec qui est extrêmement importante. Je ne vais pas se le cacher avec la légalisation du pot, là.
Ouais.
Et là, il faut être naïf pour penser que la consommation de marijuana ne mène pas à la consommation de drogues plus dures. Donc là, on a affaire à un individu qui avait une problématique de violence conjugale, une problématique de drogue. Et là, le gouvernement fédéral a probablement payé pour des services de prostitution. Est-ce que je
Ben,
me trompe?
c'est pas clair que. Non, je pense que c'est lui qui payait, là,
Oui, mais
Galès. En tout cas,
peu importe.
dans le rapport, on n'a aucune information à l'effet que c'est le fédéral qui payait pour ça. Mais
Oui,
par
ben c'est
contre.
ça. Ça serait bon à savoir, par contre, là.
Mais là, êtes-vous en train de me dire que c'est arrivé par le passé que les autorités, que le bon contribuable qui nous écoute paye pour des services de prostituées?
Ben, écoutez, c'est dans les médias. Non, non, j'ai pas d'expérience ni de connaissance de ça. Ce que je sais, c'est que dans les médias, on a affaire à une situation où cet individu-là avait pas d'affaires là. Je dis,
Mais.
moi, j'aurais jamais autorisé ça. Ça n'a pas de bon sens, cette histoire-là, là.
Ce qu'on comprend, c'est que l'équipe de gestion de cas, eux autres, ils disent, garde, tu fais des progrès. On va te permettre de rencontrer des femmes, mais seulement pour répondre à tes désirs sexuels, en autant que tu nous le dis, que tu fais preuve de transparence. Et dans sa décision, la commission sur les libérations conditionnelles, donc sa décision de septembre, elle a dit, vous avez des relations avec des femmes que la commission juge plutôt inappropriées. C'est comme si l'équipe de gestion de cas disait une chose, genre, c'est correct d'assouvir tes besoins, si tu nous le dis. Mais la commission, elle, dit, mais on n'est pas sûr qu'on aime ça. On voit ton risque de violence élevé avec une partenaire, mais on va quand même te laisser sortir en semi-liberté.
Ouais, écoutez, M. Drainville, pendant 28 ans, là, j'ai jamais vu ni recommandé, ni entendu parler que le fédéral ait supporté un individu en libération conditionnelle pour aller avoir des services sexuels dans un salon de massage. Ça, c'est complètement surréaliste, là. Ça n'a pas d'allure. Je comprends la ministre Lebel d'être en. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça n'a pas de bon sens. Avec à ça, et ajoutons à ça une problématique de consommation, là. Donc, un comportement qui comporte une boîte de Pandore, un niveau d'imprévisibilité élevé. Est-ce qu'il participait à un des groupes de désintox, cet individu-là? Parce que ce que j'ai entendu dans les médias, c'est qu'en fait, sa problématique de consommation remontait finalement avant 2004, bien avant. Et il y a eu évidemment de petits méfaits, mais là, la situation s'est continuellement aggravée. Et là, malgré tout ça, on lui a permis. Il est évident que certains fonctionnaires ou certains commissaires qui ont une vision un peu trop libérale. Et vous savez, on peut donner du poids aux rapports de programme, mais parfois, il faut les prendre un peu avec un grain de sel. Et dans les problématiques de consommation de drogue, c'est toujours bon, préférable, d'avoir au moins une évaluation psychiatrique. En d'autres termes, qu'un médecin plonge dans le dossier, là, puis qui examine, puis il rencontre l'individu et le contraigne à faire un suivi en désintox, en libération conditionnelle, avec des rencontres régulières, et non pas d'aller assouvir ses besoins à un salon de massage.
En tout cas, moi, ce qui me fatigue, là, c'est qu'à un moment donné, les mots ne veulent plus rien dire.
Ben, voilà,
le gars, voilà. le gars, il est condamné. Regardez, le gars, il est condamné à l'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 15 ans. Il est condamné en 2016. Ben, il devrait pas pouvoir sortir avant 2021, maudit. C'est tout. Qu'il soit ben fin, qu'il soit, qu'il fasse des efforts. T'as 15 ans, tu fais 15 ans. Christy de bâtard, c'est perpétuité sans possibilité de libération. Mot, t'as dit.
Le problème, c'est que les commissaires et les services correctionnels disposent d'une certaine discrétion et probablement qu'ils s'en sont servis et qu'ils y ont accordé. Et là, passez-moi l'expression, mais ça leur a éclaté en pleine face. Là. C'est aussi simple que ça. Mais il y a quand même des choses, des anomalies. Là. Écoutez, il aurait fallu un suivi beaucoup plus serré, là, surtout lorsqu'on prend un risque de cette nature-là. Toxicomanie, violence conjugale. Écoutez, c'est un mélange explosif, ça.
Marie-Pierre Deschênes disait, comment ça se fait qu'il n'y avait pas de bracelet? À raison, hein?
Oui, mais écoutez, le bracelet, ça n'empêche pas de poser des gestes.
Mais au moins, tu peux garder un œil.
Le bracelet, ça indique par GPS là où vous êtes.
Je sais, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu te dis, il faut visiblement, là, il faut mieux les contrôler, il faut mieux les surveiller, il faut le serrer à vis, d'une manière ou d'une autre, là, mais il faut le serrer la vis, ça n'a pas de bon sens. Puis ça fait des années qu'on le dit, M. Laferrière, ça fait des années qu'on le dit.
Mais là, je pense qu'il y a probablement des éléments... Il va y avoir une enquête fédérale, c'est évident. Le gouvernement va se pencher là-dessus, va envoyer des enquêteurs voir exactement qu'est-ce qui s'est passé dans le processus. Comment ça se fait qu'on a fait ce genre de recommandation-là, qui, à mon avis, est complètement surréaliste, ça n'a pas de bon sens, et qu'on n'a pas mis l'emphase sur la question de la consommation de drogue, surtout dans un contexte, dans un environnement où on a décidé de décriminaliser, voire même de commercialiser la drogue. Là, je parle évidemment de la marijuana. Là. Et ça aurait nécessité, ça aurait commandé une évaluation au moins psychiatrique à cause de l'aspect des relations de cet individu-là avec les personnes de sexe féminin. Il y a un problème, là.
Oui,
et ça, c'est une problématique médicale. Je veux dire, ça dépasse l'équipe de gestion de cas. Comprenez, là, il aurait fallu mettre un psychiatre dans le dossier. Et souvent, le service correctionnel, dans le cas des délinquants sexuels, ils le font. Pourquoi, là, ils ne l'ont pas fait? Ce sont des questions importantes auxquelles ils vont devoir répondre.
Et j'ai bien hâte, d'ailleurs, d'entendre la réponse du ministre fédéral de la Sécurité publique, là, qui a été interpellé par Sonia Lebel. Je rappelle que je parle avec Claude Laferrière, qui est avocat, chargé de cours à l'Université de Montréal en droit de la Sécurité nationale. Il a travaillé pendant 28 ans au service correctionnel. Merci, M. Laferrière.
Plaisir, M. Lebel.
Dans un instant, on s'en va en Chine. On s'en va en Chine parler à un Québécois qui veut quitter le pays, qui devrait être bon pour quitter le pays dans les prochaines heures, parce qu'il se sent, franchement, là, il se sent menacé. Je pense qu'il commence à... Le niveau de risque de rester en Chine est juste trop élevé pour lui et pour sa famille.